con guacúa. Tío, que tiene que culo. Su seque.
VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean Roger Billon, bonjour à tous. Il est 5h en temps universel, bienvenue. Les effectifs de l'armée du Niger, qui combat depuis des années les groupes djihadistes, devraient passer de 25 000 actuellement à au moins 50 000 dans les 5 prochaines années, a affirmé Issoufou Katambe, le ministre nigérien de la Défense, samedi devant le Parlement à Niamey. L'armée du Niger paie un lourd tribut à la lutte aux groupes djihadistes dont les attaques se sont multipliées depuis 2015, notamment dans l'ouest, proche du Mali, où le groupe État islamique est notamment présent, et dans le sud-est riverain du lac Tchad et du Nigeria, devenu un repère du groupe Boko Haram. Des villageois de l'État du Borno dans le nord-est du Nigeria ont enterré dimanche 43 paysans tués dans une attaque par des combattants islamistes présumés dont le bilan risque encore de s'alourdir, les forces de sécurité étant toujours à la recherche de plusieurs dizaines de personnes portées disparues. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria, Edward Callon, a fait savoir qu'au moins 110 personnes avaient été tuées au cours de l'attaque dans l'état du Borno. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a condamné le massacre. Le pays entier est blessé, a-t-il dit. Il s'agit, selon lui, de la plus violente attaque commise contre des civils cette année. De nombreux blessés affluaient dimanche dans les hôpitaux de Mekele, en Éthiopie, 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement de cette ville, capitale du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, et de sa victoire militaire dans cette région dissidente. A mis en garde le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, mais plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. La police mauritanienne a libéré dimanche les 42 personnes arrêtées la veille à Nouakchott au cours de manifestations de veuves d'orphelins demandant justice pour les victimes d'affrontements entre 1989 et 1991, a indiqué Dia Alassane, co-organisateur de la marche. Les manifestants réclamaient aussi l'abrogation de la loi d'amnistie adoptée en 1993 qui protège les auteurs présumés des crimes commis pendant 2 ans de conflit entre Mauritanie noire et les Maures arabes et berbères. Ici aux États-Unis, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont fait état dimanche de 143 333 nouveaux cas de contamination au coronavirus et de 1210 nouveaux décès. Le bilan s'élève désormais à 13 142 997 contaminations depuis le début de la pandémie et 265 166 morts. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé dimanche la composition de son équipe de communication à la Maison-Blanche qui sera exclusivement féminine, ce que son entourage a qualifié de première dans l'histoire du pays. Parmi les personnes désignées figure Jen Psaki, qui occupera le poste très en vue d'attaché de presse de la Maison-Blanche. En plus de Mme Psaki, 6 autres femmes ont été nommées, parmi elles Kate Bedingfield, directrice adjointe de campagne de M. Biden, a été nommée directrice de la communication de la Maison-Blanche. Ashley Etienne deviendra directrice de la communication de Kamala Harris et Simon Sanders est propulsé conseiller et porte-parole de la vice-présidente. Un missile a percuté dimanche une petite raffinerie de pétrole dans le nord de l'Irak, causant un incendie dans l'un des réservoirs et forçant l'arrêt complet des activités alors que les flammes se propageaient sur le réseau de pipeline, selon 2 responsables de la raffinerie. Il s'agit de la raffinerie de Sinia, qui a une capacité de raffinage de 30 000 barils par jour. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué publié sur sa chaîne officielle. Il précise que 2 missiles ont été envoyés, mais ne donne pas de précision sur le nombre éventuel de blessés. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se préparent à une semaine très importante, a dit dimanche le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab. Les discussions sur un accord commercial post-Brexit entrant dans la dernière ligne droite sans que les grands différents soient résolus, notamment. Les deux parties espèrent toujours parvenir à un accord pour éviter le risque de perturber fin décembre des échanges commerciaux à 1 000 milliards de dollars. Depuis que les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne en 2016, les négociateurs ont manqué plusieurs dates butoirs sans parvenir à trouver un accord sur la politique en matière de concurrence afin de garantir aux 2 futurs ex-partenaires des règles équitables ou sur la distribution des droits de pêche, le sujet le plus épineux selon le ministre britannique. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 25.